Le 1037 vous offre cet espace publicitaire. Appelez Simon Lapierre au 450-546-1037, poste 2025.
Comme à chaque deux semaines, on rejoint notre politologue Benoît Lapierre. Salut Benoît.
Bonjour Tania.
Hey, on va parler du vote de confiance parce qu'en fin de semaine, c'était le congrès de la CAQ à Sherbrooke et c'est quand même, ça m'a surpris le résultat.
Oui, un gros résultat pour le premier ministre François Legault qui a réussi à avoir l'appui de 98,6% de ses militants. Donc ça, c'est vraiment une grosse victoire convaincante. Ça montre que François Legault a vraiment les mains mises, a les deux mains sur le volant de son parti. Et ça, c'est déjà c'est un score impressionnant. Mm-hmm. Et il a réussi à faire mieux que son ancien vote de confiance en 2014, où il y avait eu 97,2%. Donc là, on ne sait pas si dans 4 ans, le prochain vote de confiance, il va être capable d'atteindre la marge des 99%. Mais bon, avec ça, c'est quand même assez surprenant compte tenu des mauvaises nouvelles qu'il y a eu récemment, si on fait un petit récapitulatif. On a abandonné le projet de troisième lien à Québec. On sait que la région de la Beauce et Rive-Sud, Rive-Nord de Québec sont pas contents avec ça. Il y a eu aussi la hausse du salaire des élus de 30% qui a fait beaucoup de bruit. Et aussi, on pourrait mettre après ça d'autres choses plus anecdotiques, comme il a fait Fitzgibbon avec tous les manquements à l'éthique. Donc, malgré toutes ces mauvaises nouvelles-là, récemment, vraiment, les militants de la CAQ ont vraiment donné un appui fort à François Legault. Et ça, c'est peut-être aussi pour le remercier de l'excellent score qu'il a fait aux dernières élections. Juste pour rappeler, la CAQ, Coalition Avenir Québec, avait réussi à ramasser 41% des votes aux dernières élections et ça lui avait donné 90 députés. Donc, justement, François Legault, moi, si on met le doigt mouillé, j'ai l'impression qu'il va être capable de rester aussi long, rester chef de son parti aussi longtemps qu'il va vouloir. Et juste pour vous rappeler, aussi, François Legault est chef de son parti qu'il a créé en 2011 et depuis ce temps-là, justement, on ne voit pas vraiment il n'y a pas de grenouillage, en fin de compte, pour essayer de contester son leadership. Et j'ai l'impression que ça va rester comme ça encore longtemps.
Mm-hmm. Oui, et là, le premier ministre avait fait un discours après l'annonce des résultats où il avait présenté ses projets pour le mandat.
Oui, c'est ça. Il avait parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de la langue française où, que justement, il disait que le Québec a vraiment tous les outils, a une partie des outils à sa disposition, pas besoin d'attendre le fédéral pour pouvoir défendre la langue française. Et il a dit qu'il voulait maximiser tous les pouvoirs au Québec avant de commencer à essayer d'aller en grappiller d'autres à Ottawa. Ou sinon, un autre grand chantier ou un autre grand projet que M. le Premier ministre a discuté, c'est le grand chantier de l'efficacité énergétique. Et ça, quand il en a discuté, il disait que ça voulait prendre beaucoup de facettes. Donc, on parlait des tarifs d'électricité concurrentiels. Lors de son annonce, il avait aussi demandé que les tarifs de base pour les particuliers soient gelés ou en tout cas qu'il n'y ait pas de hausse significative là-dessus. Ils ont parlé de l'efficacité énergétique, développer les nouvelles exploitations, donc les barrages et tout, et où, justement construire des nouvelles infrastructures. Et là, on commence à tâter le terrain parce qu'on sait que normalement, les barrages, ça se passe dans le Grand Nord. Dans le Grand Nord, il y a les communautés autochtones qui ne sont pas tout le temps d'accord, donc il va falloir négocier avec ça. Donc, on prépare le terrain pour dire que, justement, qu'on devrait construire des nouveaux barrages à l'avenir afin de pouvoir pallier ou afin de pouvoir concrétiser les projets de la CAQ au cours des prochaines années. Donc, normalement, il y en a un aussi que, dans son discours, il a parlé qu'il voulait faire du Québec le leader de l'aluminium vert. Et on sait, l'aluminium, on a besoin de beaucoup d'électricité pour transformer la bauxite en aluminium. Donc, pour lui, c'était vraiment comme un de ses projets forts pour essayer de réindustrialiser ça et avoir un avantage comparatif avec le reste du monde dans ce marché-là.
Oui, là, sujet chaud, puis même hier encore, on en parlait. Le premier ministre s'est attaqué au Parti québécois lors de son discours, là.
Oui, c'est ça. Il a parlé du PQ, d'abord avec le sujet de la langue, où ce qu'il disait, le PQ a raison de défendre ça, sauf qu'après ça, il disait, pour les moyens, on est moins d'accord comment y arriver. Et ça, c'est quand même une phrase qui m'a fait surprendre un peu, qui a dit qu'il y avait juste deux visions du Québec qui s'opposaient dans la province, la seule, la CAQ, et celle du PQ. Donc, je ne sais pas si Québec solidaire, si les libéraux ou si le Parti conservateur d'Éric Duhaime sont d'accord avec ça, qu'il y a juste deux visions du Québec qui s'affrontent. Mais justement, dans son discours, après ça, qu'est-ce qu'il a dit? C'était vraiment, il y a deux visions du Québec, le PQ et la CAQ, sauf que la CAQ, sauf que le PQ serait pas capable de rassembler, selon François Legault, alors que la CAQ, oui, et que, justement, il faut être au pouvoir, il faut être capable de rassembler pour changer les lois et pouvoir changer les choses. Sauf que quand on voit ça, c'est vraiment plus que on voit que le PQ, on dirait avec... Paul Saint-Pierre Plamondon, il y a peut-être un second renouveau, un dernier souffle de vie. Et moi, j'ai plus l'impression que François Legault veut vraiment s'arranger pour vraiment couper l'herbe sous le pied du PQ pour empêcher qu'il trouve un nouveau momentum pour les prochaines élections et surtout pour essayer de garder les votes, on va dire, de l'aile indépendantiste plus mou, qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés à la CAQ. Et là, j'ai l'impression que François Legault veut s'assurer de sécuriser son flanc indépendantiste dans la coalition Avenir Québec pour les prochaines élections. Donc, on voit déjà que même si les élections sont arrivées, il se prépare aussi pour l'avenir, pour s'assurer que ses bases électorales, un petit peu, mettons, on va dire les fédéralistes mous, les indépendantistes mous, tous ceux-là, où c'est pas un enjeu en tant que tel, c'est pas la question du vote, mais s'assurer que toutes ces personnes-là reste au sein de la coalition Avenir Québec pour l'avenir.
Ouais, ben là hier justement en plus s'est attaqué à Mathieu Bock-Côté là en disant qu'il était comme très très partisan. Puis mais je pense qu'il commence à sentir la soupe chaude aussi parce que là il est bien beau dire Ronald PQ a pas le pouvoir de rassembler, mais moi je pense que c'est le contraire. Je pense qu'il sent au contraire qu'il y a des partisans indépendantistes de plus en plus, puis ça commence à y faire peur là.
Oui, ben en effet, c'est justement ça que je disais, qu'essayer de couper l'herbe sous le pied là-dessus, essayer de garder sa base, ses électeurs, que normalement, on va dire que c'était dans le temps où il y avait juste libéraux et PQ, ceux-là étaient naturellement vers le PQ, et là, avec la troisième voie, même quatrième, cinquième voie, avec les partis politiques qu'on a, ben c'est justement essayer de garder cet électorat-là, et justement, là, avec ça, on voit que ça commence à grenouiller de plus en plus, que la question identitaire fait surface encore, et là, on dirait que sur ces choses-là, François Legault, comment je peux dire, il fait de la prévention et il va empêcher que justement ses bases s'effritent trop avant de devoir vraiment plus travailler ce sujet-là.
Ouais, mais l'attitude est dangereuse un petit peu.
Ouais, on va voir.
C'est ça.
Merci.
Là, autre gros sujet, là, on va parler de la situation à Haïti parce que l'ONU a peur que les troubles politiques qui règnent actuellement en Haïti aggravent les risques de famine parce que la moitié de la population ne peut pas accéder aux produits de base. Qu'est-ce qui se passe là-bas, là?
Oui, bien, il faut savoir que depuis 10 ans, même 15 ans maintenant, la situation en Haïti, depuis le dernier gros ouragan qu'il y avait eu en 2010, Haïti s'est jamais vraiment relevé. Les infrastructures, ça a tout le temps été déficient depuis ce temps-là. Et après ça, on a vu que le pouvoir central a commencé à s'effriter de plus en plus. Et juste pour vous dire que, justement, c'est pas nouveau, juste pour vous donner un exemple, en octobre dernier, l'ONU avait déjà sonné la sonnette d'alarme pour dire que le pays était rendu au niveau 3 sur l'échelle de la classification d'intégration des phases de sécurité alimentaire. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo? C'était que c'est rendu qu'il y avait plus de la moitié du pays qui sautait un repas par jour, et pas pour des raisons de santé, c'était vraiment parce que, et même pas parce que il n'y a rien dans les épiceries, c'est juste que les personnes ne sont pas capables d'avoir accès à la nourriture, même si on pourrait dire, en de gros guillemets, même à la volant, ils ne seraient pas capables de l'avoir. Mm-hmm. Donc, ça, c'était en octobre dernier, et maintenant, le dernier rapport qu'on a eu, c'est qu'il y aurait 5 millions de personnes, donc la moitié du pays, qui se trouveraient dans ce stade-là en ce moment. Donc, la moitié du pays sauterait un repas par jour, et ce n'est pas une raison pour la santé ou même budgétaire, c'est vraiment d'accessibilité de la nourriture au sein même du pays. À cette même raison, et lors de ce même rapport-là, on avait dit qu'il y avait 20 000 personnes dans la capitale, surtout dans Port-au-Prince, qui étaient en situation alimentaire catastrophique. Catastrophique, ça veut dire que c'est rendu qu'on saute des journées. Il y a des journées où ce qu'on mange pas du tout, et c'est parce que, encore une fois, c'est parce que la nourriture est pas disponible. Donc, ça, ça continue à s'aggraver. Et une des raisons pourquoi on peut se poser la question pourquoi c'est si compliqué que ça, parce que, juste pour un rappel, Haïti, c'est une île séparée avec la République dominicaine, et même si la République dominicaine a des problèmes, c'est jamais autant qu'à Haïti, l'autre côté de l'île. Pourtant, ils ont la même situation géologique, climatique, etc. Et une des principales raisons, c'est que l'inflation alimentaire en Haïti est beaucoup plus grosse parce que Les Haïtiens importent beaucoup de leur nourriture. Les Haïtiens, la première céréale pour leur alimentation, c'est le riz. Et le riz, ça pousse pas bien en Haïti. Donc, Haïti importe pour 80% de ses récoltes de grains pour pouvoir se nourrir. Et maintenant, on le sait, avec l'inflation galopante un petit peu, on pense souvent, nous, à notre facture d'épicerie. Il faut savoir que c'est mondial, ça, et que, justement, nous, bien nanti, ça fait que la facture d'épicerie est plus haute, tandis que pour les pays qui étaient déjà en situation de précarité, ça se retrouve que maintenant, ils ont de la misère à juste importer les denrées en tant que telles. Pour vous donner un exemple, le prix de l'alimentation à Haïti a augmenté de 50% cette année-ci, et l'ONU dit que l'année prochaine, ça va être encore pire, que justement l'inflation va en continuer à augmenter par rapport à l'année passée. Et justement, ça, c'est vraiment un problème d'importation, où ce que le Haïti a vraiment changé son économie dans les années 90 pour libéraliser son marché, pour qu'il n'y ait plus de quotas, pour plus essayer de subventionner ses agriculteurs locaux, et aller chercher ses denrées à l'international. Ça va bien quand les prix à l'international sont bas, quand les canaux de distribution vont bien, mais quand on voit maintenant qu'il y a plus de tensions que justement dans les canaux de distribution, c'est là où les personnes à la marge, les pays à la marge ont plus de misère à s'approvisionner, et c'est le cas à Haïti en ce moment.
Ouais, quand on dit là que les prix ont augmenté de 50%, c'est assez intense. Et là, tout ça, c'est aggravé par les guerres de gangs qui ont lieu en Haïti.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est un tout. Comme je vous dis, depuis l'ouragan, le tremblement de terre qu'il y avait eu en 2010, le pays s'est jamais vraiment levé. Depuis ce temps-là, les institutions démocratiques ou juste la fonction publique en tant que telle s'est jamais vraiment levée. Mais tout ça a atteint un nouveau niveau depuis juillet 2021. Pour les personnes qui vont se rappeler de ça, c'était le président haïtien de l'époque, Jovenel Moïse, qui s'était fait assassiner par un commando armé qui était rentré dans sa maison, et ses propres gardes du corps n'avaient pas intervenu, et justement, ça avait fait que le président de l'époque s'avait fait assassiner. Et depuis ce temps-là, on voit qu'il y a vraiment un vide de pouvoir à la tête de l'État. Les personnes qui sont intéressées par le job, ils savent, les personnes qu'il ne faut pas trop aller titiller. Donc, on a laissé un petit peu les gangs faire qu'est-ce qu'ils voulaient par peur de représailles, parce que justement, ça envoyait un gros signal quand on dit que les gangs sont capables d'assassiner un président en exercice. Ça fait réfléchir quand on veut s'attaquer à ces deux organisations-là. Et selon le même rapport de l'ONU qui a décrit la situation de la famine en Haïti, il dit que les gangs contrôleraient en ce moment environ 80% de la capitale Port-au-Prince, mais même que ça, ce serait une estimation basse, et qu'il y aurait d'autres groupes plus locaux, plus à l'intérieur de la ville, qui diraient que c'est plus que 80% de la ville qui est contrôlée par les guerres de gangs, par les gangs en tant que tels, qui se défendent le territoire. Et après ça, c'est là où on peut voir plus des situations de violence, mais aussi de raquettes. Donc ça explique aussi pourquoi il y a moins de nourriture, c'est que l'aide internationale qui arrive en ville souvent est déjà raquettée par ces gangs-là avant même que ça puisse arriver à la population, et après ça, eux, soit qu'ils la gardent pour eux, soit qu'ils montent les prix pour essayer de se faire un bénéfice, etc. Donc tout ça, ça ramène encore plus d'insécurité dans le pays, et là, il y a de plus en plus de personnes, de plus en plus d'analystes qui disent que la situation au pays, en Haïti, c'est plus juste un pays qui, on va dire, qui en arrache en guillemets, mais qui viendrait de plus en plus comme un « collapse state », un État failli, comme un petit peu comme la situation en Somalie, où ce que le gouvernement central a perdu le contrôle de grandes portions de son territoire, où on pourrait dire que l'État, qui a le monopole de la violence légitime, est plus capable de faire respecter ses lois sur le territoire, et justement, il y a d'autres organisations qui contestent la légitimité du gouvernement en place pour gérer le quotidien en tant que tel. Donc, si on pourrait faire une conclusion avec ça, c'est que c'est difficile à dire où Haïti va se retrouver, mais on voit que là, le pays prend vraiment une mauvaise tangente, et que de plus en plus, la situation devient de moins en moins facile à gérer, et que maintenant, il y a de plus en plus de voix à l'international qui s'élèvent pour dire qu'il serait peut-être temps de faire une mission, on va dire, internationale pour essayer de remettre le pays sur la bonne voie après, justement, peut-être 10 ans de déliquescence tranquille qui arrive dans le pays.
Oui, c'est ça, absolument. C'est ce que j'allais dire. Après toutes ces années, il serait peut-être temps, là, justement, qu'on, qu'on leur vienne en aide.
Ben, il y a un problème avec ça aussi, c'est-à-dire, je ne veux pas être l'avocat du diable, sauf qu'il y a, eu beaucoup de problèmes de gouvernance avec ça. Si on voit avec, je reviens encore avec le gros tremblement de terre qu'il y avait eu en 2010, après ça, la communauté internationale s'avait vraiment mobilisée pour essayer de remettre au moins le pays sur des bases, mais il y avait beaucoup de problèmes de corruption et qu'après ça, il y avait beaucoup d'États. Je vais juste vous donner un exemple. Je me rappelle, dans le temps, il y avait le Japon qui s'avait engagé à faire le nouveau aéroport international, le Port-au-Prince. Il dit, nous, notre aide internationale, on va refaire l'aéroport pour que les denrées puissent arriver. Et après 2 ans, le Japon avait dit, on arrête les frais parce que là, on voit que l'argent, on voit pas l'argent qui arrive jusqu'au résultat final. Donc, il avait mis ça sur pause. Là, je donne l'exemple du Japon, mais ça arrivait un petit peu avec d'autres pays aussi. Donc, c'est vraiment... pas dire oui, il faut le faire, mais par où commencer? Il faudrait commencer par avoir une bonne gouvernance, mais pour avoir une bonne gouvernance, il faut des bonnes institutions. Donc, genre, c'est difficile de savoir par où prendre le problème pour essayer de repartir sur des bases solides, malheureusement.
Oui, ouais, absolument. Benoît, ben, c'est extrêmement intéressant. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique.
Parfait, merci, bonne journée.
Bonne journée, à bientôt.